Les archives d'Afrique, Alain Focat.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
C'est le hasard de l'évolution qui a voulu que l'homme ait pris naissance en Afrique, donc l'homme était d'abord noir. Et cet homme est l'ancêtre de toutes les autres races.
Jusqu'à la moitié du XXe siècle, l'histoire de l'Afrique ne démarrait qu'avec l'arrivée de l'homme blanc sur les côtes africaines. Ce qui excluait totalement, selon la thèse de Hegel, le monde africain noir de l'histoire universelle qui n'était alors jugé et analysé qu'à travers le prisme féroce de la colonisation. Et c'est avec les travaux de Cheikh Anta Diop, notamment son approche pluridisciplinaire, qu'a démarré une autre lecture, moins condescendante celle-là. Une approche scientifique qui puise largement dans l'égyptologie, qui plusieurs décennies après continue de faire l'objet de tous les débats, mais qui a incontestablement restauré l'histoire du monde noir en général. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée au docteur Cheikh Anta Diop.
Et quand je suis tombé sur l'Égypte, mes camarades le savent de ma génération, j'étais gêné, ça ne m'intéressait absolument pas de tomber sur l'Égypte pour ce que je cherchais. C'est le fil conducteur, c'est la continuité, c'est la restauration de la conscience historique qui m'intéressait. C'est cette conscience historique qui est le ciment qui réunit les individus d'un peuple, qui fait qu'un peuple n'est pas une population, un agrégat d'individus sans lien. C'est ce sentiment historique seulement que je voulais restituer, restaurer. Et je ne peux pas non plus, en aboutissant à l'Égypte, falsifier l'histoire par complaisance pour être dans le vraisemblable du moment. C'était tout.
C'était tout. Mais cela bousculait toutes les théories jusque-là publiées et diffusées par les historiens et les égyptologues. C'est pourquoi sa première parution, Nation nègre et culture, en 1954, est un véritable séisme dans le milieu intellectuel de l'époque.
La nature ne passe jamais deux fois par le même point dans son évolution. Il est impensable, quand on y regarde de près, que la nature ait créé trois fois le même spécimen. La nature ne l'a jamais fait dans son évolution. La nature n'a jamais créé deux fois la souris, deux fois le chat ou deux fois l'espèce humaine. La nature, au passage, crée une espèce et puis ensuite cette espèce se différencie, évolue, s'éteint ou se développe, se fragmente. Mais la nature ne revient pas en arrière pour créer trois fois l'homme ou deux fois l'homme. Elle a créé une fois l'homme en passant et elle l'a fait en Afrique, c'est tout.
Et cette théorie, cette thèse monocentrique de Cheikh Anta Diop, qui s'oppose à celle polycentrique qui avait cours jusque-là, ne s'arrête pas là. Elle va beaucoup plus loin en utilisant, entre autres, les textes anciens, les écrits des savants et explorateurs les plus célèbres.
Les ancêtres des Européens actuels, les Latins et les Grecs, qui étaient arrivés au stade de la lucidité et de la maturité, les philosophes, les savants de l'Antiquité, ont tous déposé dans le même sens. Et ils nous ont presque unanimement tous dit que les anciens Égyptiens étaient des nègres. Et les Grecs, à l'apogée de leur civilisation, n'avaient aucun intérêt au 5e siècle, au moment où l'Égypte avait déjà perdu son indépendance sous les Perses. Parce que c'est à cette époque que Hérodote a visité l'Égypte. Les Grecs n'avaient aucune raison particulière de nous dire que ces Égyptiens étaient des nègres et que ce sont eux qui leur ont donné tous les éléments de la civilisation. Et nous sommes pratiquement au bout du métissage égyptien. Ça faisait 3000 ans d'histoire pendant lesquels l'Égyptien se métissait, mais malgré ce métissage intense, le peuple égyptien était plus ou moins comparable au peuple antillais. Les constantes raciales n'étaient pas bouleversées. On n'avait pas l'impression d'avoir un blanc devant soi parce que tous les témoignages de l'Antiquité sont là unanimes.
Cette théorie qui place l'Égypte au cœur de la civilisation universelle et qui explique que ceux qui ont construit les pyramides et qui sont les maîtres, les inspirateurs des Grecs, donc à la base de la civilisation hellénique, étaient des nègres, ne peut que susciter l'indignation et la vive critique des égyptologues et des anthropologues occidentaux tels que Raymond Mauny ou encore Jean Suret Canal, pour ne citer que ces deux-là. Il faut se replacer dans le contexte historique pour bien mesurer l'impact, le poids de ces déclarations. En s'appuyant sur l'archéologie, la linguistique, l'ethnonymie, la sociologie et la science exacte, Cheikh Anta Diop montre les mythes et les préjugés qui ont souvent prévalu dans l'écriture occidentale de l'histoire africaine. Le contexte de l'époque, la traite négrière, puis la colonisation, a mené de nombreux auteurs à réfuter l'historicité même des sociétés africaines. On se souvient par exemple des écrits de Jean Hahnemann, théologien et médecin de renom, qui écrit en 1677 une théorie selon laquelle tous les Africains et les habitants des Indes néerlandaises, ainsi que ceux de l'Hindoustan, sont les descendants de Cham, victimes de la malédiction qui les condamne à la servitude. François Lenormand, autre professeur d'archéologie, célèbre et respecté dans son Histoire de l'Ancien Orient, assure que la malédiction biblique s'accomplit, je cite, « en plénitude dans tous les empires fondés par les chamistes ». Il rajoute « leur race garde toujours l'empreinte des tendances dépravées et grossières qui avaient attiré sur Cham la malédiction paternelle ». La race de Japhet, au contraire, la race indo-européenne, c'est celle à laquelle nous appartenons. C'est la race noble par excellence. Fin de citation. Et plus proche de nous, Voltaire, écrivain respecté, unanimement reconnu pour son humanisme, n'est pas en reste. Il écrit ceci dans « Essai sur les mœurs et l'esprit des nations » en 1756. « Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur intelligence, la mesure même de leur intelligence, mettent entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. » Fin de citation. Nous sommes pourtant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Et Hegel, dans son ouvrage « Raison dans l'histoire », introduction à la philosophie de l'histoire, écrit dans le chapitre consacré à la géographie des peuples ceci. « Les nègres sont des êtres ineptes dans l'absolu, incapables d'évoluer, juste bons au travail manuel. » Fin de citation. Une description qui va bien sûr influencer un peu plus les historiens du XIXe siècle. Ce n'est pas tout. Le comte de Gobineau, l'auteur de l'essai sur l'inégalité des races, écrit en 1851, établit une hiérarchie entre les peuples et dénie carrément aux nègres, au bas de la pyramide, la possibilité d'avoir une histoire digne d'intérêt. C'est dans ce contexte que les Africains vont devenir des objets, mais jamais des sujets de l'histoire. Ce qui explique le séisme que provoque la théorie de Cheikh Anta Diop, qui remet le nègre au centre même de l'histoire universelle. Docteur Yorossi, un proche de Cheikh Anta Diop.
Il parle d'un fait, c'est que la théorie des races est fausse. Pour Cheikh Anta et ses compagnons, il y a une race humaine, c'est tout. Cette race humaine est née en Afrique, elle a prospéré en Afrique, elle est allée dans les autres continents, elle s'est transformée par des mutations. Hein. Elle a donné des blancs, des jaunes, des... Mais il y a une race humaine, comme il y a une race bovine, une race canine ou une race chevaline, mais il y a une seule race, la race humaine. L'homme est un. Mais au départ, la race chouche, c'est la race noire.
Dans le milieu intellectuel de l'époque, à la fin de la décennie 50, on le perçoit comme un idéologue dangereux, ce qui ne va pas faciliter sa vie parisienne. Il va d'ailleurs être la victime de quelques gros bras de l'extrême droite française, Dr Yorossi.
Oui, il y a Le Pen en particulier.
Le Pen en personne?
En personne, avec une équipe à lui, parce qu'il n'attaquait jamais seul. Ils étaient trois ou quatre. Ils avaient des barres de fer et des chaînes de vélo. Ils attaquaient ce qu'ils appelaient les bico, les Nord-Africains, les Nainai, les Indochinois et les Négros, comme ils disaient. Alors, quand vous étiez isolé, ils vous attaquaient. Et Cheikh a effectivement été attaqué, il a même été blessé, en même temps que Hassan Dia d'ailleurs. Moi, ce jour-là, je n'étais pas du groupe, je n'ai pas reçu de coup.
Même si la théorie de Cheikh Anta Diop restaurait l'histoire de l'Afrique, même si elle lui redonnait une place dans l'histoire universelle, dans le milieu intellectuel africain, notamment du quartier latin, Cheikh Anta Diop n'était pas non plus soutenu par tous. La critique y était souvent très vive. Cette thèse ne convainc pas tout le monde. Qu'est-ce qui le met sur la piste de l'Égypte, docteur Yorossi, vous qui faisiez partie de ses proches? Pourquoi l'Égypte comme point de départ?
Il y a quelque chose qui nous intriguait beaucoup. Parce que les Occidentaux, chaque fois qu'ils parlaient de la civilisation, ils la faisaient remonter toujours jusqu'à la Grèce. Et ils s'arrêtaient là. Mais la Grèce n'est pas sortie ex nihilo comme ça. Et ça, on lui posait des questions. Nous, on était une petite bande. Il y avait Martin Gaï, il y avait Cherchard, il y avait Hassan Dia. Et il y avait Kandji, et il y avait moi-même. On lui posait des questions, et lui-même se posait des questions. On lui disait, mes chers, de la Grèce, l'Orient, la Grèce, Rome, d'accord? Mais l'Orient, et l'Égypte, là. Il faut arriver à déchiffrer les hiéroglyphes, il faut que tu apprennes ça, et que tu essaies de voir. Comme toi, tu es scientifique, tu as fait de la physique, tu as fait de la chimie, tu es très bon en anglais, en allemand et tout ça. Hein? Il faudra que tu ailles en Égypte un peu voir cette histoire-là. Hein? Et puis, il y avait quelques, quand même... publication sur l'Égypte malgré tout. Hein, il y avait des travaux. Ça n'a pas commencé avec Cheikh. Hein. Alors il a pris les travaux un peu de certains égyptologues. Il a essayé de travailler là-dessus. Et après, comme il est très curieux, il s'est mis. Et chaque fois, nous, on se rencontrait, on lui posait des questions. On disait, ah oui, mais Cheikh, il faudrait que tu cherches dans telle direction pour voir.
Mais docteur Yorossi, cette thèse de l'Égypte nègre, il n'était pas le premier chercheur à la développer.
Il y a des égyptologues français même, qui ont soutenu la même chose que Cher, mais on les mettait toujours de côté, on ne publiait pas leurs œuvres.
Amadi Ali Dien était également de cette génération des intellectuels africains du quartier latin. Il côtoyait de très près chez Kanta Diop, même s'il ne partageait pas vraiment toutes ses idées.
Où est-ce qu'il a trouvé cette thèse de l'Égypte nègre? Si vous regardez très bien, Charles Cher défend ça, à la suite de l'abbé Grégoire. D'ailleurs, on lui a reproché par postuler un prix Grégoire. On lui a dit que vous n'avez fait que dire ce que déjà Grégoire a dit, a bien dit et mieux dit. Il était choqué. Il dit, si ça, même si cela existe, aussi c'est nécessaire de le rappeler parce que c'est quelque chose de très important. C'est ça, c'est la réponse de l'abbé Grégoire. Je pense que c'est la raison pour laquelle personne n'a posé à Cheikh Anta où est-ce qu'il a trouvé cette thèse. Où est-ce qu'il a trouvé.
Mais pourquoi sa thèse a lui suscité-t-elle tant de polémiques et d'oppositions?
Vous savez qu'il y avait des écoles qui s'étaient formées sur des thèses. Il y avait d'abord les intérêts intellectuels, les grands maîtres qui avaient leur chair, qui défendaient leurs idées et tout. Ensuite, sur le plan économique, ça pouvait déranger certains intérêts économiques. Par exemple, regardez quand les Espagnols vont jusqu'à refuser aux Indiens d'avoir une âme. Vous connaissez Las Casas qui a défendu tout. Et on a même failli le liquider, lui, Las Casas. Mais l'envoyé de Rome, quand il est arrivé, il a pris Las Casas de côté. Qu'est-ce qu'il lui dit? Casas, tu as raison. Mais, vous savez, les mines d'or et tout ça, c'est pour les grands d'Espagne. Et nous, c'est les grands d'Espagne qui nous donnent de l'argent, qui nous financent et tout. Alors, si vous soutenez votre thèse là, vous voyez tout ce que ça va faire. Et puis, si l'Église vous soutient, les grands d'Espagne vont nous faire la guerre. Tu te calmes un peu, tu dis rien, tu laisses tomber. Hein. Ils n'ont pas d'âme, et puis tout le monde.
Oui, c'est pour... Cheikh Anta Diop va connaître avec la sortie de Nations Nègres et Cultures sa première vraie opposition avec les critiques les plus dures vis-à-vis de ses recherches. Mais il en faut beaucoup plus pour le décourager. Lui qui parvient enfin, malgré la violente attaque, à réunir un jury pour soutenir sa thèse. Janvier 1960. Cheikh Anta Diop soutient donc sa thèse de doctorat ès-lettres à la Sorbonne. Le jury est présenté par André Aymard, spécialiste de l'Antiquité grecque et doyen de la faculté des lettres. Et pendant plus de 6h10, Cheikh Anta Diop expose ses travaux devant de nombreux étudiants africains en majorité qui ont effectué le déplacement. André Aymard.
Nous avons tous été unanimes pour louer en M. Diop une curiosité d'esprit, une intelligence sans cesse en éveil, le goût des grands problèmes, des plus grandes questions, parfois des plus audacieuses. Nous avons présenté des critiques, certaines ont pris une forme assez vive. Il reste que l'impression générale que le jury recueille de la lecture de ses travaux et de cet après-midi de discussion, c'est la décision finale, a été la proclamation de M. Cheikh Anta Diop comme docteur ès lettres avec la mention honorable.
Malgré la critique que suscite sa thèse, Cheikh Anta Diop est désormais docteur d'État. Ses œuvres peuvent être publiées. Amadi Ali Dien, un de ses proches.
À l'époque, les chercheurs africains étaient beaucoup plus porté à discuter des thèses, des théories, plutôt que de faire un travail empirique. Il me rappelle, à certains égards, ce que Marcel Mauss avait fait. D'une certaine manière, il l'a réussi, mais il est le seul à le réussir, d'être un anthropologue arme de chair, comme disait mon professeur d'ethnologie, Paul Mercier. Je pense que les travaux sur le terrain, c'est qui va soutenir ces travaux? Nous étions anticolonialistes. Il ne pouvait pas du tout soutenir ce genre de thèse qui va à l'encontre des intérêts de la colonisation, bien entendu. Mais ce qui est à retenir surtout, c'est que Cheikh a essayé de trouver des arguments pour pouvoir répondre à sa thèse, du moins établir sa thèse.
Dans le milieu estudiantin de la diaspora africaine, la thèse et le travail de Cheikh Anta Diop divisent. Une chose est certaine, l'intellectuel sénégalais ne fait pas l'unanimité. Si un bon nombre d'entre eux voient en lui celui qui permet de restaurer l'histoire de l'Afrique, d'autres semblent plus critiques. Amadi Ali Dien était un de ses proches. Il était à cette soutenance de thèse de Cheikh Anta Diop.
Il n'était pas accepté par les étudiants africains, contrairement à ce que l'on croit à l'heure actuelle. Parce qu'il disait que ce n'est pas la peine d'aller fouiller dans les décombres du passé pour prouver que nous sommes les plus ceci, nous sommes les plus cela, etc.
Pourtant, voilà, le but, c'était de donner
Oui, une base.
Une base.
Oui. Historique. C'est pourquoi d'ailleurs il insiste beaucoup sur la conscience historique. Ça apparaît très nettement dans sa thèse complémentaire, c'est-à-dire l'unité culturelle de l'Afrique noire. C'est très net. En 1954-55, généraliser sur l'Afrique, c'est très aléatoire. Surtout quand les problèmes sont portés non pas au niveau de l'Afrique, mais portés au niveau, par exemple, de l'Océanie. Connaître la civilisation française, la civilisation océane, et aussi, etc., et négliger les autres, par exemple en Amérique latine, ça peut poser des problèmes.
Et l'Asie.
L'Asie, ça pose des problèmes très sérieux. Mais moi, je le comprends. Il ne voulait pas que le combat soit abandonné par quelqu'un. Il était un héros solitaire, il faut dire la vérité. Parce qu'il avait l'âge, le privilège de l'âge, le privilège aussi d'avoir venu faire ses études en 46. Beaucoup d'ailleurs d'entre eux ont bénéficié des bourses de Lamine Gueye, qui était un homme généreux. Si Lamine Gueye n'existait pas, Cheikh Anta n'existerait pas.
Même s'il le respecte, Aimé Césaire, le chantre de la négritude, n'est pas proche de Cheikh Anta Diop dans cette période. Qu'est-ce qui les opposait en réalité?
C'est nous qui avons maîtrisé la science à travers l'Égypte. C'est là la différence. C'est ce qui n'est pas dans le discours de Césaire. Et d'ailleurs, il invoque la Mésopotamie et non pas l'Égypte.
Entre Senghor et lui, ce n'est pas non plus la grande complicité. Ils semblent même très opposés du point de vue idéologique l'un et l'autre. Docteur Yorossi, qu'est-ce qui les opposait tant?
Tous les opposent. L'un est formé par les jésuites, l'autre est formé par les marabouts, l'un est de famille féodale, l'autre c'est un paysan, c'est un roturier. Vous voyez, c'est la civilisation gréco-romaine, judéo-chrétienne. Et l'autre, c'est l'Africain qui cherche ses racines, qui veut s'enraciner en Afrique d'abord avant de s'ouvrir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait des recherches et qu'il a écrit avec nous « Nation nègre et culture ».
Face à toute cette machine déployée de part et d'autre pour démonter sa théorie, pour mettre en doute la thèse qu'il essaie de démontrer, Cheikh Anta Diop semble plutôt galvanisé. Docteur Yorossi.
Il est né dans une famille princière. Vous avez beau être blanc, noir, jaune, n'importe quoi, si vous êtes né dans une famille princière, on vous met dans l'esprit que vous êtes au centre du monde, que vous êtes le meilleur et que les autres. Il faut beaucoup d'efforts pour se reconnaître que tout ça, c'est de la légende. Mais malgré tout, ça vous marque. Et comme à l'époque de la colonisation, les administrateurs des colonies, les curés, enfin tout l'establishment, leur travail, c'était une déstructuration de la société qu'il fallait. Alors il y a cette réaction. Il fallait se battre contre cette déstructuration
de l'esprit.
De l'esprit, de la pensée, de l'histoire de ce pays-là. Donc c'est par révolte d'abord, au départ. C'est pour cela que quand Senghor et Césaire ont parlé de négritude, au départ, ils n'étaient pas d'accord avec eux. C'est vers la fin, quand Nation Nègre et Culture est sorti, que Césaire s'est rapproché de lui.
Cheikh Anta Diop, après cette thèse de doctorat d'État, veut désormais poursuivre ses études et encourager les Africains à s'armer des sciences pour démonter les théories racistes en cours. Avec sa femme, Louise Marie Maes, une Française diplômée d'études supérieures de géographie, et ses trois garçons, il quitte la France pour le Sénégal en 1960, où sa candidature à la chaire de sociologie africaine à l'université de Dakar a été refusée. Mais il est affecté à l'Institut d'Afrique noire, l'IFAN. C'est dans ce cadre qu'il va vraiment approfondir ses recherches sur l'histoire africaine et sur l'Égypte, comme nous allons le voir dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives spéciale chez Cheikh Anta Diop. Annette Mbaye d'Erneville, une amie.
Quand ses enfants sont nés, Samori, Jomo Kenyatta, Mas, Masamba, ils disaient, en tout cas, je pense que vous n'allez pas leur donner de ces petits noms ridicules qui vont les faire ressembler à des Américains. Surtout, Jomo ne l'appelait pas Joe. Et Samori ne l'appelait pas Sam. Bon, ce qui est d'ailleurs loupé, parce que Samori, on l'appelle Sam. Bon, déjà, il montrait son intransigeance en matière d'africanité.
Rendez-vous juste après le journal pour la suite.
Les archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
dès l'instant, et ceci vient de l'éducation qu'on a reçue pendant ces derniers siècles, les uns et les autres, forcément, tous ceux qui ont vécu dans cette nouvelle idéologie, n'est-ce pas, de l'époque industrielle, ne pouvaient plus se faire à l'idée d'un nègre responsable d'une création. Voilà la difficulté. Elle est psychologique, elle est dans l'esprit. C'est donc au niveau de la perception qu'une race est responsable d'une civilisation, même si elle est noire de la tête aux pieds, même si elle est lipue, même si elle est promenade, elle ne peut plus être perçue, elle ne peut plus être perçue, occidentalement parlant, comme étant nègre. Le nègre, c'est un être, blanc ou noir, qui n'a pas créé de civilisation.
Avec Nation Nègre et Culture en 1954 et sa thèse de doctorat d'État en 1960, Cheikh Anta Diop bouleverse les certitudes considérées jusque-là comme scientifiques et invite les chercheurs de toutes les disciplines à une nouvelle approche de l'histoire universelle en général et africaine en particulier. Et lorsqu'il décide en ce début de la décennie 60 de retourner au Sénégal, c'est vraiment pour se consacrer à la recherche, pour avoir un cadre plus serein pour poursuivre ses travaux. Mais rien n'est tout à fait certain dans ce Sénégal qui vient d'accéder à l'indépendance et où tout ou presque dans l'enseignement supérieur reste encore contrôlé et tenu par l'ancienne métropole, la France. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Cheikh Anta Diop.
En présence de Dieu et devant la nation sénégalaise, je jure de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal.
C'est dans ce Sénégal qui accède à la souveraineté internationale, avec à sa tête Léopold Sédar Senghor, 54 ans, l'un des théoriciens de la négritude à laquelle n'a pas vraiment adhéré Cheikh Anta Diop, que le jeune docteur d'État arrive en cette année 1960. Au moment où partout sur le continent, les jeunes nations retrouvent au moins théoriquement leur indépendance. Cheikh Anta Diop.
Il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe, et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel.
C'est pour se former, pour armer les Africains des sciences exactes jusqu'aux dents, comme il le dit, qu'il prend avec sa famille le chemin du retour au pays natal en cette année 1960. Sa candidature à la chaire de sociologie africaine de l'université de Dakar a été rejetée très certainement parce qu'on redoute l'influence qu'il pourrait avoir sur les apprenants. Son idée du devenir de l'Afrique n'est pas vraiment partagée par les autorités. Il faut absolument le brider, l'encadrer. Amadi Alidien, auteur et ami de Cheikh Anta Diop.
Ceux qui ont contribué à rendre la tâche difficile pour l'entrée à l'université, c'est le doyen Aymar. À cause de son rapport de thèse.
Cheikh Anta Diop est finalement affecté comme assistant à l'IFAN, l'Institut fondamental d'Afrique noire. Son premier chantier, celui que lui confiait Théodore Monod, le directeur de l'IFAN, l'inventaire archéologique du Mali. Ainsi, il va dresser une carte des sites préhistoriques du Mali, allant de Kaï à Tirikin, lorsqu'on lançait les places d'ouest en est, et les courants Koro-Calais à Tégaza, du sud vers le nord.
Moi, je suis allé à l'école, et l'on nous disait que nous étions des étrangers en Afrique. Nous n'habitions pas l'Afrique, nous sommes venus par l'Océanie. Nous étions des occupants noirs, comme le blanc est un occupant blanc. Et alors, c'est à l'occupant le plus fort qui déracine l'autre. Que le vrai indigène de l'Afrique, c'était le pygmée. Le noir est venu avant-hier, le blanc est venu hier, et puis c'est tout.
Cheikh Anta Diop va répertorier toutes sortes d'objets. Des bifaces aquéliens, des pointes de flèches en silex du paléolithique, des poteries de l'époque médiévale, des haches de la période néolithique et même des scories. Bref, il trouve tellement d'objets qui, dans le même temps, lui permettent naturellement de reconstituer la chronologie et le mode de vie et d'organisation sociale des ancêtres des Africains. Leurs coutumes et la conception qu'ils se faisaient de la vie et de la mort. C'est avec ces travaux que la préhistoire abordée dans Nations Nègres et Cultures va prendre une place de plus en plus importante dans ses recherches. Il va, pour être plus efficace et sans aucune aide du gouvernement, solliciter le concours des amis et du laboratoire Ford pour créer un laboratoire de datation des échantillons archéologiques par la méthode de radiocarbone. Il monte quasiment seul ce laboratoire en liaison avec ses collègues physiciens de Gif-sur-Yvette en France. À cette époque, c'est l'unique laboratoire de datation par le radiocarbone en Afrique noire. Hormis, j'allais oublier, celui de la Rhodésie du Sud, actuel Zimbabwe. Il réunit dans son bureau de l'IFAN toute une collection de moulages de crânes d'hominidés représentant différents stades de l'évolution humaine. Il s'emploie à remonter le plus loin possible dans l'histoire de l'Afrique.
Vous savez que l'humanité a pris naissance en Afrique. La séparation de l'homme et de l'animal s'est effectuée en Afrique, on n'en doute plus. Cet événement important a eu lieu il y a environ 5 600 000 ans. C'est en Afrique qu'on trouve représentés tous les spécimens d'hommes fossiles à l'exclusion de tout autre continent. Les deux variétés d'Australopithèque, l'Australopithèque robustus, l'Australopithèque gracile, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'homme de Néandertal, l'ancien Homo faber donc, et l'Homo sapiens sapiens, l'homme deux fois sage comme vous et moi. Ce dernier spécimen est né en Afrique il y a 120 000 ans. Et cette humanité est née sous l'équateur, sous la latitude du Kenya. C'est-à-dire sous une latitude où le flux de radiation ultraviolette est tel que tout organisme humain né sous cette latitude est nécessairement pigmenté et noir. Il n'aurait pas été possible à la première humanité de survivre si elle n'était pas pigmentée, la nature ne créant rien au hasard. Donc la pigmentation a une fonction protectrice de l'organisme et protège l'organisme contre les radiations ultraviolettes qui auraient détruit complètement toutes les cellules de l'organisme. Cette humanité s'est développée en Afrique de 120 000 ans à moins 40 000 ans.
Même s'il est conscient de la polémique que suscite cette théorie d'abord sur l'origine de l'homme, puis sur son évolution, Cheikh Anta Diop continue de travailler sur le terrain de la science pour démontrer sa théorie. Il publie le résultat de ses recherches dans le bulletin de l'IFAN. Ses travaux de recherche, sa démarche pour restaurer l'histoire de l'Afrique sont au centre de ses préoccupations. L'ancien militant de la FEANF, la Fédération des étudiants africains de France, le militant du RDA, le Rassemblement démocratique africain, n'a pas renoncé à faire prévaloir son point de vue sur le fonctionnement, sur la gestion de la cité. Docteur Yorossi, vous qui étiez un de ses proches, pourquoi se lance-t-il en politique?
Moi-même, je lui ai posé la question à l'époque. Il me dit, il faut un garde-fou. Il faut que nous créions des garde-fous, sinon si nous laissons Senghor, il va faire de ce pays-là une colonie, mais alors occidentalisée. Toutes nos civilisations-là vont disparaître parce qu'il va faire d'eux, non pas des Français, mais des Occidentaux. Alors il faut un garde-fou.
Mamadi Alidien, auteur et accessoirement critique de Cheikh Anta Diop.
Son message est politique, dès le départ. Il veut que le peuple africain se développe. C'est ça son objectif. Et il voit bien la liaison qu'il y a entre la politique et l'idéologie. Je pense qu'il est politique dès le départ.
Cheikh Anta Diop dénonce sans ambiguïté les orientations antifédéralistes de Léopold Sédar Senghor. Il lui reproche sa soumission aux influences néocolonialistes quant au développement économique et culturel du Sénégal. Cheikh Anta Diop est pour une indépendance totale de l'Afrique noire dans le cadre d'un État fédéral. Un État s'étendant du tropique du Cancer, c'est-à-dire au milieu du Sahara au nord, jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, au sud, de l'océan Indien à l'est, jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest. Une thèse que soutiendra avec passion le leader ghanéen Kwame Nkrumah à Addis Ababa en 1963, lors de la création de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'OUA. Cheikh Anta Diop va créer dès 1961, c'est-à-dire finalement moins d'un an après son retour au Sénégal, son parti. Le Bloc des masses sénégalaises, dont il est le secrétaire général. Ce mouvement est clairement opposé au régime en place au Sénégal. Le climat entre Léopold Sédar Senghor et lui va rapidement se dégrader. Il est arrêté et emprisonné à la mi-août 1962. Il est incarcéré à la prison de la ville de Diourbel, Annette Mbaye d'Erneville.
Cheikh Anta était l'idole de mon mari. Et nous lui apportions tous les jours le repas de midi. Mais on lui trouvait tellement de repas que je ne sais même pas si ça avait distingué, si c'était notre bol qui venait ou le bol de quelqu'un d'autre.
Il était si populaire que ça dans cette région, dans sa région.
Il était plus que populaire, il était de cette région. Il était populaire partout au Sénégal. Cheikh Anta, c'est quelqu'un qui n'a pas de nom. C'est son prénom qui prévaut.
Amadi Ali Dien, auteur sénégalais.
Je vais vous dire une chose. S'il y a quelqu'un qui admire Cheikh Anta Seyss Senghor, ça vous choquera. Mais ça ne me choque pas. Parce que tous les deux défendent l'exilation nègre. Tous les deux. Les défendants, tous les deux aussi, ils sont rivaux. Sauf qu'ils ne peuvent pas s'entendre facilement. Ils ne se font pas de concessions à proprement parler. Moi, je comprends Senghor. C'est quelqu'un que je n'aime pas du tout. Je ne suis pas d'accord, mais c'est un grand observateur.
Un non-lieu va finalement être prononcé dans cette affaire. Et Cheikh Anta Diop est libéré un mois après son arrestation. Mais il n'en oublie pas pour autant la politique. Au contraire. En 1963, après le fracassant départ de Mamadou Dia, Léopold Sédar Senghor, qui souhaite neutraliser le chercheur qui menace son régime, propose à Cheikh Anta Diop de rentrer dans le gouvernement. Il offre 5 postes ministériels à son parti, le BMS, le Bloc des Masses Sénégalaises. Il propose également à son parti de lui offrir le quart des sièges des députés à l'Assemblée nationale. Cette alléchante proposition est naturellement assortie d'une condition. Le Bloc des Masses Sénégalaises doit se saborder pour permettre à ses militants d'intégrer l'UPS, le parti de Léopold Sédar Senghor. Une idée que ne peut accepter Cheikh Anta Diop. Il refuse de faire partie de ce gouvernement au détriment de ses idées. Et bien que certains des membres de son parti aient rejoint l'Union progressiste sénégalaise de Léopold Sédar Senghor, il n'acceptera pas le poste ministériel. Le chef de l'État, devant ce refus, va malgré tout, en toute illégalité, dissoudre le BMS de Cheikh Anta Diop. Mais il crée aussitôt un autre mouvement, une autre formation politique, le Front National Sénégalais, le FNS, qui exige la libération de tous les prisonniers politiques, dont celle de Mamadou Dia, l'ancien compagnon politique de Léopold Sédar Senghor. Le parti est à nouveau dissous par le président Poète. Malgré son opposition politique et idéologique au régime de Léopold Sédar Senghor, bien qu'il soit bridé dans ses recherches, Cheikh Anta Diop est respecté par ses pairs africains qui le consultent et qui saluent sa démarche pour confondre les falsificateurs de l'histoire. Que le fossé semble énorme avec son président Poète qui consacre son temps libre plutôt à l'écriture, à la littérature.
Quand j'écris mon brouillon, le premier jet du poème, en général, c'est dans l'après-midi, vers 5 heures, quand je me sens un peu fatigué, quand je me sens un peu angoissé, quand je me laisse tomber dans l'ombre. Et c'est alors à ce moment-là aussi que je ressens le besoin de la lumière. Je reprends le poème 4 ou 5 fois. En général, il y a 4 ou 5 versions de mes poèmes. Le matin, dans la lumière de la joie. Car quand je me réveille le matin et que je vois le soleil et la lumière, c'est une renaissance.
Une renaissance dont il a besoin, à laquelle il croit. En cette première moitié de la décennie 60, Léopold Sédar Senghor, souvent perçu comme le Toubab, le blanc, par certains de ses compatriotes et autres intellectuels noirs, veut célébrer les talents d'Afrique et de sa diaspora. Il a pour ambition de parvenir, je cite, à une meilleure compréhension internationale et interraciale, d'affirmer la contribution des artistes et écrivains noirs aux grands courants universels de pensée et de permettre aux artistes noirs de tous les horizons de confronter les résultats de leurs recherches. Ce projet passe par un festival mondial des arts nègres. Un musée dynamique a été spécialement construit pour la circonstance à Soumbé Dioun. Initialement prévu en 1961, puis 63 et 65, le Festival mondial des arts nègres se tient à Dakar du 1er au 24 avril 1966. Il accueille les personnalités de tous les horizons. Son complice et ami Aimé Césaire, Jean Price Marx, Duke Ellington, Josephine Baker, Langston Hughes, tous les arts sont représentés. Arts plastiques, littérature, musique, danse, cinéma. I don't know why, Léopold Sédar Senghor.
En aidant à la défense et illustration de la négritude, le Sénégal a conscience d'aider à la construction de la civilisation de l'universel. En effet, avant même notre indépendance nationale, depuis quelques 20 ans, nous n'avons jamais cessé de bâtir notre politique sur le dialogue, dans tous les domaines, mais fondamentalement dans le domaine de la culture. Car, comme nous aimons à le dire, la culture est le fondement et le but du développement.
tout ce beau monde réuni à Dakar qui parle de civilisation de l'universel, de négritude, va proclamer en son absence Cheikh Anta Diop, comme je cite, l'écrivain africain qui a exercé sur le XXe siècle l'influence la plus féconde. Cheikh Anta Diop est pourtant absent. Il a momentanément tourné le dos à la politique. Il est retourné à ce qu'il passionne, à ce qui constitue pour lui la seule source de salut pour l'homme noir en général, la science exacte. Il faut aller plus loin, à travers les différentes disciplines scientifiques, la chimie, la physique et les mathématiques, mais également les sciences sociales, pour redonner à l'homme noir sa dignité. Il est désormais outillé et audible, comme nous allons le voir la semaine prochaine, dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale chez Cheikh Anta Diop.
Remember, every sound of the drum that you hear is an African beat, and this is the sounds of Africa. This music comes from the Senegal area. It's the sound, it's the music of West Africa. I listen to the rhythm, listen to the singer. Are you listening? Well, it's a one called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele, the ancient African music called Yele. Senegalese music called Yele. When you hear the Yele, you might say, eh, eh. Listen how the Yele sound a lot like reggae. You know some connection must have to be there. Baba Man.
Baba Diwaro. Pull up your dog. Come on, Dibayo.
A country in West Africa between the Gambia and Mauritania. In the past it was used by the slave trader, buy and sell people like a second hand car. From Gore Island near to Dakar, millions of blacks sent from Africa, well heap of them sent to America. Some of the ones they couldn't manage them sent to Jamaica. Now listen how the music have a reggae flavor, a something Bob Marley would be proud of. And if you're looking at the facts of Senegal, sister, Senegal information. Dakar is the capital of the nation. Population around 7 million, about the size of England plus Scotland. 1650 colonization. Colonization by the Frenchman. 1960 independence come. 300 years.